Levé pour invoquer le nom de Jésus sur notre soirée. Seigneur Jésus, je te remercie pour ces moments que nous pouvons mettre à part pour nous rencontrer autour de ta parole et étudier les choses en profondeur, les choses qui nous concernent et qui concernent le monde qui nous entoure et notre intégration, notre visite dans ce monde. Je te prie, Seigneur, de nous aider à bien saisir ces choses afin que nous puissions toujours te servir mieux avec plus de zèle. Merci Jésus. Veuille bénir ceux qui sont malades parmi nous, ceux qui sont malades aussi qui souffrent et qui sont en train d'écouter Internet. Veuille les bénir, les encourager, mon Dieu, et les guérir. Que ton nom soit glorifié. Amen. Nous allons faire un tout petit peu de foi. J'ai un message vraiment pour les initiés. Ce n'est pas un message pour monsieur, madame, tout le monde. Et vous qui nous rejoignez sur le net, je vous avais dit que, voilà, on vous donne un code parce qu'on ne veut pas que tout le monde puisse entendre ce qui concerne la communauté, ce que nous vivons. Et bien, ce soir, c'est un message quand même qui est destiné à la communauté, mais aussi à tous ceux qui veulent se consacrer réellement à Jésus-Christ, c'est certain, et selon leur appel. Mais ce soir, c'est voilà, une étude qui est plus spécialement destinée à mes frères et sœurs de la communauté. Vous êtes les bienvenus tous, et écoutez bien, et priez que l'esprit de prophétie vous saisisse pour que vous puissiez bien comprendre tout ce que je voudrais vous dire, et ne pas mal l'interpréter. Voilà, on va lire dans Matthieu 2, 22-23, s'il vous plaît. Matthieu 2, 22-23. Donc c'est Joseph et Marie qui quittent l'Égypte, mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, ils craignaient de s'y rendre. Donc Joseph est divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Amen. Vous asseoir. Joseph et Marie donc reviennent d'Égypte et s'installent dans une ville appelée Nazareth. Matthieu dit que c'est pour accomplir ce qu'ont dit les prophètes, ce que les prophètes avaient annoncé, il sera appelé Nazaréen. Mais je vous mets au défi de fouiller dans toute votre Bible, vous n'allez trouver aucune prophétie qui dit cela. Bon, alors il y a d'autres écrits, on le sait. Mais les chrétiens évangéliques nous critiquent parce que, et nous condamnent même parce que nous croyons dans certains livres apocryphes. Bon, ben voilà, Comment ils peuvent justifier? Maintenant, les archéologues vont plus loin encore. Ils disent que Nazareth a été créé seulement au deuxième siècle après Jésus-Christ et qu'avant, il y avait peut-être une petite bourgade là, mais en haut sur la colline, mais certainement pas là où il y a Nazareth à l'heure actuelle. D'ailleurs, dans l'Évangile, il est écrit que c'était sur une colline que leur ville était bâtie et qu'ils ont cherché à jeter Jésus en bas. Enfin, ça, c'est encore, on s'en fiche de ce que les archéologues disent, ils peuvent se tromper. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que il n'y a rien dans l'Ancien Testament au sujet de Nazareth. Rien. Par contre, on sait que le mot Nazareth est un dérivé du mot Netzer en hébreu et Nitzra en araméen, et que ces mots signifient germe, rejeton. Et la seule allusion qu'on pourrait trouver dans la Bible, eh bien, dans un prophète, et pas n'importe lequel, Ésaïe, eh bien, c'est là, dans Ésaïe 11, versets 1 à 10, je vais vous le lire, et vous jugerez par vous-même. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre avec de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra la main dans la caverne du basilic. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qu'il couvre. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples, les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Alors pour moi c'est clair, c'est une prophétie qui parle, n'est-ce pas, de Jésus, c'est net, n'est-ce pas? Un rameau, c'est-à-dire un netzer ou un nitzra sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines, c'est-à-dire un netzer, un nitzra, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. On voit en effet que cette prophétie concerne Jésus. Je vous rappelle que Nazareth est un dérivé du mot netzer, qui signifie rejeton. Alors, on voit que cette prophétie d'Ésaïe 11 concerne Jésus, et Jésus était un naziréen, non pas parce qu'il venait de Nazareth. D'ailleurs, comme je vous le disais, dans l'Ancien Testament, on ne trouve nulle part cette ville de Nazareth, elle n'y est pas. Dans Actes 6, 14, on entend les anciens de Jérusalem qui traite Jésus de Nazaréen, du mépris. Hein. Dans Actes 24, 5, on entend Tertulle, c'est un orateur, qui traite Paul en disant qu'il est le chef de la secte des Nazaréens. Mais qu'est-ce que c'est que cette secte des Nazaréens? Tertulle accuse Paul devant le gouverneur Félix, un Romain, et cette secte, je pense donc, des Nazaréens, devait être assez connue, puisqu'elle était même connue de Félix, puisque sinon Tertulle n'irait pas lui dire « Tu te rends compte, il est le chef de la secte des Nazaréens si Félix n'avait pas su ce que c'était. » Donc c'était quelque chose de connu. Voilà. Eh bien, mes frères et sœurs, la secte des Nazaréens, c'était ainsi qu'on nommait les chrétiens de l'Église primitive en Israël. Dans Actes 11, 26, on apprend que les chrétiens d'Antioche sont appelés chrétiens, les disciples de Jésus sont appelés chrétiens à Antioche, mais Antioche, c'est dans les nations. Donc dans les nations, ils sont appelés chrétiens, et parmi les juifs, ils sont appelés nazaréens. Et est-ce que Jésus est appelé nazaréen parce qu'il venait de la ville de Nazareth? Non. Est-ce que les chrétiens juifs étaient appelés nazaréens parce qu'ils étaient membres de l'Église créée par Jésus qui venait de la ville de Nazareth? Non. Jésus était un nazaréen, c'est-à-dire un nazoréen ou un nazir, ça dépend, on peut dire comme on veut. Et je vais vous démontrer comment. Qu'est-ce que c'était qu'un nazir ou un naziréen? Eh bien, c'était une personne qui avait fait un vœu d'ascétisme en suivant scrupuleusement la loi de Moïse en Nombre 6, 1 à 21. Je ne vais pas vous lire tout ça, vous lirez ça chez vous. Le mot nazir venait de l'hébreu qui signifie consacré et séparé. Celui qui fait ce vœu, il doit se tenir. Celui qui décide, mais normalement c'était au moins 30 jours. Et vous lirez que celui qui fait le vœu de naziréen, il commence par se raser la tête. Et puis s'il lui arrive un problème d'impureté pendant son temps de naziréat, il doit se raser la tête de nouveau. Mais le but, c'était se raser la tête et laisser les cheveux pousser tout au long de son vœu. Paul, il nous a dit qu'il s'est rasé la tête à Cenchré parce qu'il avait fait ce vœu. On trouve ça dans Actes 18, 18. Dans la Bible, on ne voit que deux personnes qui étaient engagées au naziréat à vie. Premièrement, il y avait Samson. Son secret, le secret de sa force, lui venait de sa chevelure de nazir. Et le nazir, pour 30 jours, se rase la tête et laisse pousser ses cheveux. Et s'il touche un mort, comme je vous disais, par exemple, s'il est impur, durant les 30 jours, il doit de nouveau se raser la tête. Et Samson était nazir de naissance. Jamais le rasoir n'avait touché ses cheveux parce qu'il était consacré et dévoué à Dieu dès sa naissance. Il avait été consacré dès avant même la conception. On trouve ça dans Juges 13, 6 à 24. Il était consacré, nazir. Il était habité par l'esprit de sainteté et il l'a été tout au long du temps où il demeurait dans son naziréat. L'autre personne, c'est Samuel. Avant sa naissance, il était consacré à Dieu par sa mère qui était stérile. On trouve ça dans 1 Samuel 8, 11. Il était donc nazaréen à vie, c'est-à-dire consacré, séparé au profit de la divinité. Et dans le Nouveau Testament, on sait que Jean-Baptiste était nazaréen, Luc 1, 13, 15, et Jésus aussi était nazaréen. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Eh bien parce que Jacques, le frère de Jésus, était aussi nazaréen. Et l'autre jour, je vous ai parlé de Jacques, qui était le chef de l'église d'Israël, de l'église primitive. En tant que chef de l'église de Jérusalem, il fréquentait toujours le temple, il continuait à pratiquer la Torah, c'est-à-dire la circoncision, les interdictions alimentaires, le Shabbat, tout comme les Juifs d'alors. On va revenir à Jacques tout à l'heure, mais je vais faire une petite parenthèse. On va d'abord voir ça. C'est très intéressant de voir que 634 ans après Jésus-Christ, on sait que le Coran a été écrit à ce moment-là. Et dans le Coran, on dit que les disciples de Jésus d'origine juive sont des Nasranis. Et que ceux des nations, les disciples de Jésus-Christ des nations, sont des Romains. C'était juste une pour l'anecdote. Ce que je veux dire, c'est que l'église primitive de Jérusalem était considérée comme une secte naziréenne. C'est-à-dire un groupe de personnes consacrées, séparées pour le profit de Dieu. Les Nazarim, les gens qui ont fait ce vœu de se consacrer à Dieu, en arabe, Nasrani signifie grande quantité de poissons. Et les fidèles de Jésus sont une grande quantité de poissons. C'est un banc de poissons consacré. Or, le symbole des premiers chrétiens, ce n'était pas la croix, mais c'était le poisson. Tout ça pour vous montrer, c'est les choses comme elles se mettent en place. Et les apôtres étaient appelés les pêcheurs, non pas seulement parce qu'autrefois ils avaient fait le métier de pêcheur, mais parce qu'ils avaient avant tout une activité de recrutement, c'est-à-dire de pêcheurs d'hommes. Jésus leur avait dit, je ferai vous des pêcheurs d'hommes. Ils recherchaient les gens qui voulaient se consacrer, venir dans le banc de poissons. Maintenant, la source biblique établit une étroite relation entre naziréat, consécration à Dieu, qu'on trouve dans Nombre 6, 1, 21, vous savez, je vous ai dit, le vœu de naziréen, qu'on trouve dans Nombre 6, 21, il y a une relation étroite avec ça, avec ce vœu-là et la prêtrise. Le Naziréen fait un vœu de s'écarter de tout contact qui est impur. En cela, il est légal au grand prêtre selon l'ordre de Lévitique 21, 10, 11. La même chose, il est grand prêtre. Il a la prêtrise. Parce qu'il se sépare. Pas parce qu'il dit « Ah, c'est bon d'art, maintenant j'ai la prêtrise. » Non, non. Il a la prêtrise parce qu'il se sépare. Le mot « nazir » a encore une autre signification. En effet, de par son naziréat, celui qui se consacre à Dieu est, ça c'est la signification, couronné d'entre ses frères. Et en y regardant bien, Samuel et Samson sont les seuls personnages de la Bible qui ont cumulé à la fois le statut de naziréen et de juge en Israël, une position d'autorité. Et Jacques accède au rang de premier chef de la communauté de Jérusalem, et en cela, il est le premier évêque surveillant juge de l'Église. Évêque signifie cela. Comme Samson et Samuel. Alors, voyez où cela nous conduit. La communauté, l'Église rétablie comme elle était à Jérusalem, même si elle est petite encore aujourd'hui, ce n'est pas rien aux yeux de Dieu. Mes frères et sœurs, tout ce qui distinguait les premiers disciples de Jérusalem, c'était qu'ils croyaient que le Messie était déjà venu. C'est tout ce qui les distinguait. Quand Pierre arrive à Antioche, rappelez-vous, Paul lui résiste en face. Et on voit dans le texte que Paul avait des problèmes avec les disciples de l'entourage de Jacques. Donc, Paul, il était, si vous voulez, appelé par les Arabes dans le Coran, de Rome. Et puis, Jacques était de Jérusalem. Il y avait l'église des nations et l'église juive. Et c'était très différent. On trouve ça dans Galates 2, 11, 13. C'est écrit carrément qu'il avait des problèmes avec des disciples de l'entourage de Jacques. Il est normal donc que nous, qui sommes séparés pour nous consacrer comme nous le faisons, nous ayons aussi des problèmes avec l'église des nations que Dieu tolère. Vous croyez que ceux de Jérusalem, ils disaient « Ouais, c'est super, c'est génial ». Non, ils ont fait un compromis. Ils ont dit « Bon, écoutez, l'apôtre Paul leur a bien parlé. » Ils ont dit « Bon, d'accord, mais eux, ils étaient d'accord que pour les nations, voilà, c'est des non-juifs. » Mais non, vous voyez, et comme nous, on dit « Bon, ben, Dieu tolère ces chrétiens qui vivent comme en assemblée, en synagogue. » Mais non, c'est autrement, on veut faire la volonté de Dieu, ce qui est écrit. Alors, ne nous décourageons pas, mais continuons à nous consacrer à ce que Dieu nous a demandé. Maintenant, vous savez que selon les Écritures, eh bien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je voudrais vous lire ce qui s'est passé autrefois, afin que vous puissiez voir ce qui va se reproduire, ce qui est déjà en train de se produire de nos jours, vis-à-vis de nous. Alors, c'est un petit peu d'histoire, et je vous lis ça. On pense souvent que Jésus était lié aux Esséniens de Qumran, dont faisait partie Jean-Baptiste. Or, parmi les termes utilisés par les scribes de Qumran pour désigner les membres de la communauté, on trouve très souvent celui de gardien de l'Alliance, en hébreu, Nozrei Abrit, d'où vient le mot Nosrim Nazaréen. Les deux sectes étaient liées. Vous vous rappelez de la rencontre extraordinaire que nous avons fait à Jérusalem avec ce rabbin qui venait de cette dénomination-là, dont je vous avais parlé. Les disciples, alors écoutez ça, Agobard, évêque de Lyon au 9e siècle, écrivait « Dans toutes leurs prières, les Juifs maudissent chaque jour sous le nom de Nazaréen, notre Seigneur Jésus-Christ et son Église. » Les disciples de Jésus étaient tous d'origine juive et n'avaient pas rompu leur attache avec le judaïsme. Ainsi, le livre des Actes des Apôtres nous montre à plusieurs reprises les premiers chrétiens qui portaient alors le nom de Nazaréens fréquentaient le temple de Jérusalem et les synagogues. Ils continuaient à pratiquer la Torah. Tout ce qui distinguait le nouveau mouvement, c'était sa croyance que le Messie était déjà venu. Tout fut remis en cause par l'arrivée de Paul. Si les dirigeants de la communauté nazaréenne de Jérusalem, Jacques, frère de Jésus et les apôtres, voyaient le nouveau venu avec un mélange de sympathie et de scepticisme, certains commencèrent à s'inquiéter sérieusement quand on apprit que Paul, non content de constituer des communautés composées principalement d'anciens païens,
ne leur demandait rien d'autre que la conversion intérieure et le baptême. Les opposants à Paul estimaient que la conversion au Messie était une conversion à forme de judaïsme. Il fallait exiger la circoncision et l'observation intégrale de la loi. Et c'est en 49 qu'eut lieu alors ce qu'on appela par la suite le Concile de Jérusalem, dont le récit figure au 15e chapitre du livre des Actes des Apôtres. Jacques et les apôtres proposèrent un modus vivendi dont la teneur était à peu près la suivante. Paul garderait toute liberté d'évangéliser les non-juifs sans leur demander la circoncision et les autres observances de la loi. Pendant ce temps, Jacques présiderait aux destinées de l'autre groupe, celui des Nazaréens d'origine juive, qui continuerait à pratiquer la Torah pour marquer son lien avec le judaïsme ambiant. On connaît la suite de l'histoire, l'expansion rapide du mouvement chrétien autour du bassin méditerranéen, sous la houlette de Paul. Malgré les rapports qu'il dit fraternels avec Jacques, Paul a sujet dans ses épîtres de se plaindre des Nazaréens provenant de chez Jacques et qui continuaient à polémiquer avec lui, parce que c'est pas parce que Jacques avait dit, on dit Jacques a dit, hein. C'est pas parce que Jacques a dit que tout le monde était d'accord avec ce que Jacques avait dit chez les Nazaréens. Donc, il avait encore des problèmes avec des Juifs, mais d'origine chrétienne, l'apôtre Paul. Pas seulement avec les autres, mais avec ceux-là aussi. Ah. À terme, on aboutira à un renversement de la situation. L'église primitive des Nazaréens s'effondrera vers 70 et le pagano-christianisme paulinien entamera sa destinée triomphale. Quand je dis pagano, christianisme, ça ne veut pas dire un christianisme païen, ça veut dire un christianisme des nations. Pendant la révolte juive de Menahem vers 66-67, la communauté nazaréenne, donc les juifs chrétiens de Jérusalem, reçut par révélation l'ordre de quitter Jérusalem. Elle chercha alors son refuge en Bassanitide, dans la région de Kokba, au sud-ouest de Damas, et à Pella, en Décapole. Tout ça, c'est l'histoire. Je ne l'invente pas, je ne peux pas inventer une chose pareille. Cette migration fut écrite par Eusèbe de Césarée. Il écrit « Le peuple de l'église de Jérusalem reçut, grâce à une prophétie transmise par révélation notable de l'endroit, l'ordre de quitter la ville avant la guerre et d'habiter une ville de Pérée nommée Pella. Ce fut là que se transportèrent les fidèles du Christ » après être sorti de Jérusalem, de sorte que les hommes saints abandonnèrent complètement la métropole royale des Juifs et toute la terre de Judée. Ça se trouve dans l'histoire ecclésiastique 3, versets 5 et... Voilà. Épiphane en parle également dans son traité des points et mesures, chapitre 15. Quand la ville fut sur le point d'être prise par les Romains vers 69-70, tous les disciples furent avertis d'avance par un ange de quitter la ville destinée à être totalement détruite, ce qui est arrivé. Ils s'établirent à Pella, une ville de la Décapole, de l'autre côté du Jourdain. Après la destruction de Jérusalem, ils y retournèrent et accomplirent de grands signes. Dans la Panarion 29-29, Épiphane écrit « La profession de foi des Nazaréens est bien celle des Juifs en tout, sauf qu'ils prétendent croire au Christ ». Chez eux, en effet, on professe qu'il y a une résurrection des morts et que tout vient de Dieu. Ils proclament aussi un seul Dieu et un seul serviteur, Jésus-Christ. Et saint Augustin, 354-430, dit ceci dans Les Hérésies, un bouquin que j'ai, que vous pouvez avoir. Tout en reconnaissant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, les Nazaréens accomplissaient scrupuleusement les prescriptions de l'ancienne loi, dont les chrétiens ont appris à l'école de Paul, à comprendre le sens spirituel et à en délaisser l'observance charnelle. Jérôme parle aussi vers 404 en disant « Jusqu'aujourd'hui, dans toutes les synagogues, toutes assemblées de l'Orient, il y a chez les Juifs une secte qu'on appelle les Minims, hérétiques, ça signifie hérétique, qui est jusqu'ici condamnée par les pharisiens, qu'on appelle communément les Nazaréens. Ils croient au Christ, fils de Dieu, né de la Vierge Marie, et ils disent que c'est celui qui, sous Ponce Pilate, a souffert et est ressuscité. En lui, nous aussi, nous croyons, mais tandis qu'ils veulent en même temps être juifs, ils veulent aussi être chrétiens, si bien qu'ils ne sont ni juifs ni chrétiens. » C'est exactement ce qu'on dit de nous, on n'est pas des chrétiens, on nous excommunie, etc., etc. Et pourtant, on dit les mêmes choses, on croit les mêmes choses, mais on va aller jusqu'au bout. L'histoire qui est arrivée, elle se répète, mes frères et sœurs. On nous excommunie, on nous... Non pas à cause de mauvaises choses qu'on aurait faites, pas du tout, mais parce que nous voulons nous consacrer à Dieu selon les Écritures, non pas de l'Ancien, mais du Nouveau, cette fois. Mais c'est l'histoire qui se répète, parce que nous croyons que toute l'Écriture est inspirée. Et ça, c'est quand même une curiosité. Jésus a reçu ses blessures de la main de ses frères, l'Église primitive a reçu ses blessures de la part de ses frères, et ça doit être encore la même chose aujourd'hui. Ça doit être encore la même chose aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, portons encore et encore le message tant que cela est possible, parce qu'il faut que nous sachions qu'en faisant cela, on est quand même aussi en train d'aiguiser l'épée qui va servir à nous blesser. Il ne faut pas se leurrer. Ça va nous tomber dessus un jour. Parce que l'histoire se répète toujours. Or, il y avait dans l'Ancienne Alliance deux Nazaréens de naissance. Et nous sommes tous des Nazaréens de par notre nouvelle naissance. Il y avait Samson et il y avait Samuel. Maintenant, les deux ont fini consacrés, mais cette semaine, je vous demanderai d'étudier dans vos Bibles et de choisir lequel des deux vous préférez être, Samuel ou Samson. Quelle sorte de Nazaréen voulez-vous être? Quelle sorte de Nazaréen serez-vous dans l'histoire à venir? Il y en avait deux. Il doit y en avoir deux aujourd'hui. Ce n'est pas qu'il y en a un des deux qui va perdre, mais il y en a un des deux qui a quand même a été un peu léger et qui a fait des bêtises et qui a payé très cher. Frères et sœurs, faites attention, veillez et priez afin de tenir dignement jusqu'à la fin. Tenir pas seulement jusqu'à la fin, mais dignement. Que le Seigneur nous vienne en aide, qu'il nous aide à accomplir sa parole dans son intégrité. Rappelez-vous des prophéties qui nous ont été données. Il faut que nous croyions dans la parole entière. Eh bien, que Dieu nous éclaire s'il y a encore des choses qu'on n'a pas comprises. Quant à celles qu'on a comprises, il faut qu'on les mette en pratique avec zèle. Amen. Avec zèle. Et nous allons nous engager dans les semaines et les mois à venir à faire davantage pour l'œuvre de Dieu. Et que Dieu nous vienne en aide et que chacun d'entre nous prenne véritablement sa part dans le corps de Christ pour que cela avance. Amen. Merci Seigneur Jésus pour toutes ces choses que j'ai dites ce soir, pour montrer que l'histoire se répète et que nous devons devenir des gens vraiment sérieux, complètement sur la parole de Dieu et non pas différents, mais comme la parole de Dieu le dit. Parce que c'est vrai que pour les païens, il y a eu des compromis de fait, mais maintenant, cela est terminé. Nous ne voulons plus, nous ne voulons pas vivre ces choses, nous ne voulons pas continuer comme ça. Nous voulons revenir à ce qui se vivait véritablement, selon la véritable foi que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Merci Jésus. Amen. 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 Amen.